Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le chef du gouvernement annonce la disparition progressive en 2 ans du régime social des indépendants et son adossement à la sécurité sociale générale. Précision sur cette réforme dans un instant avec Jean-Marc Chardon. Jean-Luc Mélenchon se pose en victime d'une vindicte médiatique. Il accuse la scène médiatique de délire contre la France insoumise avec, dit-il, la complicité du parti au pouvoir. Commentaire sur cette charge de Sophie Delpont. À l'étranger, la guerre en Syrie avec l'armée syrienne qui tente maintenant de briser le siège de Deir ez-Zor dans l'est du pays. C'est la dernière région encore contrôlée par l'État islamique en Syrie, analyse d'Éric Biegala. La crise coréenne, Vladimir Poutine dénonce ce matin l'hystérie militaire contre la Corée du Nord. Il s'oppose donc à de nouvelles sanctions contre Pyongyang, correspondance de Claude Bruyot à Moscou. La Cour européenne des droits de l'homme estime que les salariés ont droit au respect de leur vie privée sur leur lieu de travail, y compris dans leurs communications électroniques, qui ne peuvent donc être contrôler qu'à certaines conditions. Précision sur ce jugement avec Anya Vogel, l'invitée de la séquence interview, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, un laboratoire d'idées libérales, auteur de « Ce que doit faire le prochain président », c'était en janvier, ce livre aux éditions Albin Michel. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Cerveau humain contre intelligence artificielle, faut-il refaire le match? Ne devrait-on pas passer à l'étape d'après? On va en parler avec la philosophe Catherine Malabou qui poursuit sa réflexion autour de l'intelligence et de ses métamorphoses dans un essai qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Elle sera avec nous à partir de 12h55.
On commence donc par ce plan annoncé ce matin pour les indépendants, Édouard Philippe, qui annonce l'adossement de leur régime social à la sécurité sociale générale. Il y aura des baisses de cotisations qui vont venir compenser la hausse de la CSG. Ça concerne quand même plus de 3,5 millions de personnes. Et selon Édouard Philippe, eh bien, ces mesures vont permettre d'assurer un gain de pouvoir d'achat pour 75% de ces travailleurs indépendants. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour.
Perspective donc de gain potentiel de pouvoir d'achat qui n'empêche pas les inquiétudes des intéressés. Pour quelles raisons ?
Oui, mais on va déjà attendre que les intéressés se manifestent eux-mêmes. A priori, les mesures présentées ce matin à Dijon sont quand même de nature à apaiser, au moins en partie, dans l'immédiat, le mécontentement qui est resté fort et même très fort jusqu'à ces dernières semaines. La suppression du RSI, elle est confirmée, c'était attendu, et au 1er janvier 2018, c'est donc acté, c'est du moins sur le calendrier. C'est la mise en œuvre qui va poser maintenant question. Le RSI ne va pas disparaître d'un coup, il y aura une phase transitoire de 2 ans. Le temps d'intégrer les indépendants du régime général, c'est un peu compliqué tout cela, au cours de laquelle doivent intervenir 2 baisses de cotisations. Alors une première sur les cotisations de famille, celle-ci doit permettre d'effacer quand même l'effet de la hausse de la CSG, d'après Édouard Philippe, et puis la seconde sur les cotisations maladie. Au bout de quoi ? Eh bien, le chef du gouvernement chiffre un gain de pouvoir d'achat pour les 3/4 des indépendants, parmi ceux dont les revenus n'excèdent pas 43 000 euros par an. Alors tout cela représenterait tout de même un coup de pouce de quelques 200 millions d'euros. Alors au-delà de ces annonces, Édouard Philippe s'est contenté d'assurer que les indépendants allaient bénéficier d'une organisation spécifique au sein du régime général. Ils auraient un régime dédié, ce qui avait été promis par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Mais sous quelle forme ce nouveau dispositif, qui doit s'inscrire dans un schéma de simplification, on ne le sait pas encore. Or, cela, c'est la réponse centrale qu'attendent les indépendants, la réponse qu'ils voudraient avoir en priorité.
Voilà, et voilà pourquoi leur inquiétude sans doute. Merci beaucoup Jean-Marc Chardon, Agnès Verdier-Molinier. Un petit mot là-dessus, peut-être, comprendre l'esprit général de cette réforme.
Oui, bonjour. L'idée, c'est évidemment, on le sait, le RSI a été énormément décrié ces dernières années par les indépendants qui avaient du mal déjà à communiquer avec le RSI, avec leur régime. Parfois, certains attendent encore leur retraite. On leur dit qu'ils n'existent pas dans les bases de données. Enfin, il y a eu énormément de bugs. Ça a été un
peu... Donc, on fait bien de le supprimer.
Ubuesque. Alors... La question, c'est est-ce que l'adossement au régime général est la bonne solution ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nos indépendants payent déjà à peu près 47% de cotisation. Hein. C'est pas vrai pour tous, ceux qui gagnent un peu moins, c'est un peu moins. Mais 47%, c'est énorme par rapport aux indépendants des autres pays. Il faut pas se dire qu'on va comparer qu'en France. Il faut aller voir à l'étranger ce qui se passe. Et en Espagne, c'est 29% de cotisation. En Grande-Bretagne, alors là, c'est carrément 9% de cotisation. En Norvège, c'est 11%. Aux Pays-Bas, c'est 33%. Donc même dans des pays où on on est quand même dans des états-providence assez développés, on voit qu'on a le régime des indépendants le plus cher. Et on n'a pas autant d'indépendants qu'on devrait en avoir. On devrait en avoir 1 ou 2 millions de plus. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est non pas se dire qu'il faudrait leur proposer de cotiser plus. Hein, c'est un peu la petite musique que nous dit le gouvernement. Si vous voulez, par exemple, avoir une indemnisation chômage, hein, faut savoir que les indépendants, aujourd'hui, ils cotisent pas au chômage. Alors, peut-être on va leur proposer de cotiser plus. C'est pas encore très, très clair. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est leur dire, vous avez un filet social de sécurité et ensuite, vous pouvez choisir des assurances supplémentaires. Et avec des choix possibles pour chaque indépendant. Ça, c'est ce que nous proposons à la Fondation IFRAP. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on aille dans ce sens-là, alors que c'est ça qui permettrait de multiplier les vocations d'indépendants.
Fondation IFRAP, laboratoire d'idées libérales. Bon, c'est ce qu'on lit, en tout cas, sur, quand on tape sur Google pour savoir de quoi il s'agit précisément. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ce que doit faire le prochain président » aux éditions Albin Michel. C'était donc, évidemment, avant les élections, en janvier. Est-ce qu'Emmanuel Macron fait ce que vous recommandez?
Alors, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, hein, sur la question de la fiscalité du capital, par exemple. On sait très bien qu'on ne peut pas créer d'emplois dans notre pays si on n'a pas des entreprises qui ont un minimum de capital au départ. L'idée de fiscaliser le capital comme le travail a été une idée qui a transcendé un peu la gauche et la droite, hein, parce que Nicolas Sarkozy, en fin de mandat, si vous vous souvenez bien ce qu'il disait, il disait qu'il faut aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. Fillon aussi, en tant que Premier ministre, reprenait cette antienne. Et derrière, ça a été vraiment un des sujets phares, hein, du président Hollande, et ça a été franchement une des mesures qui a fait qu'on a eu aussi un écroulement derrière. On n'a pas profité de la croissance comme on aurait dû le faire, alors qu'on avait un alignement désastre, un euro faible, etc. etc. Vous connaissez le sujet. Donc, là, sur cette question de la fiscalité du capital et de dire qu'il faut baisser cette pression fiscale, c'est absolument incontournable si on veut recréer...
Donc, c'est ce qui est fait, c'est ça, actuellement.
Oui, alors, après, peut-être pas au niveau de ce qu'on aurait souhaité, parce qu'on va être à peu près à 4 milliards de baisse, alors qu'on a de l'ordre de 40 milliards d'écart avec les Allemands sur la fiscalité des revenus du capital. Donc là, on a encore un gros écart avec les pays comparables. Mais si on veut réindustrialiser ce pays, si on veut recréer des entreprises dans les territoires, hein, dans nos territoires, dans nos régions, dans nos communes qui sont aujourd'hui touchées par le chômage, c'est absolument fondamental de remettre l'épargne, de la rediriger vers nos entreprises.
Encore faut-il qu'elle s'investisse aussi dans ce qui, effectivement, est productif. Mais on va reprendre le sujet tout à l'heure.
Il faut aussi prévoir des incitations sur le sujet important. Donc, en tout cas, en la matière, je pense qu'on a fait un grand pas en avant.
Agnès Verdier-Molinier, on vous retrouve donc pour la séquence interview. On passe maintenant de l'autre côté de l'échiquier, finalement, puisqu'on évoque ce que disait hier Jean-Luc Mélenchon, qui s'est livré une violente charge contre la presse française. Message publié sur son blog, où il accuse la scène médiatique de délire contre la France insoumise, avec, dit-il, la complicité du pouvoir. Ce matin, sur RMC, M. Mélenchon a défendu la presse d'opinion face à, dit-il, l'illusion de l'objectivité. On l'écoute.
Le mélange des genres. Alors, eh bien, c'est là que ça va pas. Moi, je préfère quelqu'un qui annonce la couleur à un hypocrite qui se planque. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis du point de vue d'Albert Camus. Albert Camus était journaliste, philosophe, engagé. J'espère que vous ne méprisez pas Albert Camus.
Et il dit... Pour les journalistes qui écrivent.
Il dit, l'engagement n'exclut pas le goût de la vérité. Quand j'achète l'Humanité, je sais que j'achète le journal communiste. Je suis content de lire un journal communiste que j'ai choisi de lire ce journal parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dedans. D'accord? Les journalistes de l'Humanité sont jamais invités sur les plateaux avec les experts. Quand j'achète le journal Politis, c'est un hebdomadaire, je sais ce que j'achète. Mais quand j'achète certains journaux que je ne vais pas nommer, eux, ils prétendent qu'ils sont d'aucun camp. Ils sont avec personne. Ils sont objectifs. Ce n'est pas vrai. Ils mentent. Ils mentent, ils font des campagnes ininterrompues contre nous. Et alors, bon, il faudrait qu'on supporte ça sans rien dire.
Est-ce qu'il faut supprimer les subventions à la presse, alors?
Ah oui, ça serait bien, sauf à la presse d'opinion.
Jean-Luc Mélenchon, c'était avec Jean-Jacques Bourdin ce matin. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous continuez de couvrir, comme on dit, l'actualité de la gauche de la France insoumise. Ces critiques vous paraissent-elles justifiées?
Alors, une analyse globale présenterait bien d'autres nuances, en passant notamment par le filtre de l'éthique journalistique qui n'est pas mentionné dans cette charge de Jean-Luc Mélenchon ce matin. Les journalistes sont qualifiés de médiacrates dans le discours de la France insoumise, notamment le soir du premier tour. Ils sont régulièrement la cible des attaques de Jean-Luc Mélenchon. Mais cette fois, l'extrême tension entre le leader de la France insoumise et plusieurs médias est encore montée d'un cran. La hargne contre les insoumis pourrait inspirer les violents. Voilà ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon sur son blog hier. Une mise en garde inquiétante, justifiée par le postulat que presque toute la scène médiatique est en proie à un stupéfiant délire contre les insoumis, selon lui, le presque étant écrit entre parenthèses. À l'origine de ce coup de colère de Jean-Luc Mélenchon, notamment les propos d'Éric Brunet, éditorialiste de RMC, qui avait qualifié d'abrutis les 7 millions de personnes qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. Il fait également référence à l'édito du Monde qui fustigeait la tenue d'une conférence intitulée « Faut-il dégager les médias ?» qui s'est tenue lors des amphis d'été de la France Insoumise. Le texte visait notamment à rappeler qu'en France, la plupart des 35 000 journalistes essaient de faire honnêtement leur travail. Jean-Luc Mélenchon dénonce un système médiatique dominé par la concentration de nombreux médias aux mains de 9 milliardaires et une précarité généralisée dans la profession comme terreau de l'autocensure et une hostilité quasi généralisée, selon lui, contre la France Insoumise. Sauf que ces dernières semaines, les médias se sont aussi fait l'écho d'une chute de la popularité du président de la République. Et hier, à quelques heures d'intervalle, Emmanuel Macron a lui aussi critiqué l'entre-soi des journalistes qui passent leur temps à s'interroger sur la communication, propos lancés à une équipe de France 2. Sur ce thème, donc, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron semblent bien trouver un point d'accord.
Sophie Delpont, merci beaucoup. Peut-être un mot de la philosophe qui se trouve dans ce studio, invitée de la dernière partie de la grande table, Catherine Malabou, bonjour.
Bonjour.
Ni gauche, ni droite, apolitique, objectif, non engagé, est-ce que est-ce encore une position qui pourrait s'assimiler à une forme d'idéologie et d'engagement?
Disons que je suis un peu gênée par ce genre de déclaration parce que effectivement Jean-Luc Mélenchon déplore un manque d'engagement à gauche et de radicalité des journalistes, d'engagement politique, mais moi je peux pas m'empêcher de penser à des diatribes similaires de gens qui sont de bords opposés comme les Le Pen, enfin la famille Le Pen ou Trump. Donc il y a dans cette méfiance contre la presse quelque chose à mon avis de très suspect et qu'il faudrait peut-être interroger davantage. Parce que cette méfiance-là, est-ce qu'elle est de gauche, est-ce qu'elle est de droite? Enfin, moi, c'est des questions que je me pose.
Oui, effectivement, c'est ni gauche ni droite, puisque Emmanuel Macron également semble partager, non pas de la même façon, mais un point de vue qui aboutit aux mêmes conclusions. Catherine Malabou, métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu? Voilà, peut-être que là, il y a de l'objectivité dans le cerveau bleu, qui est plus un cerveau qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Est-ce que ça aussi, c'est quand même une problématique qui court dans votre livre?
Il n'y a pas d'objectivité du tout des machines. C'est-à-dire qu'une machine, on la programme aussi avec de l'idéologie. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais...
Très bien, ça sera effectivement l'un des thèmes qu'on abordera à propos de votre livre publié aux éditions au PUF. Catherine Malabou, peut-être un mot quand même à Agnès Verdier-Molinier là-dessus, parce que vous êtes engagée tout de même, vous considérez que vous êtes une actrice engagée dans le débat politique.
Moi je suis engagée pour les réformes, pour faire baisser notamment le chômage, c'est ça le sujet numéro un. Donc la baisse du chômage, ça passe par des réformes importantes de notre modèle, ça ne veut pas dire tout casser, ça veut dire réinventer pour être adapté au XXIe siècle et qu'on n'ait plus 3,5 millions de personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon là-dessus et fait un peu un mauvais procès parce que dans les débats que j'ai ces derniers temps, j'ai énormément de personnes de la France Insoumise en face de moi qui ont tout à fait droit de débat. D'ailleurs, c'est souvent intéressant de débattre avec eux, de mon point de vue, parce qu'on a des points de vue très, très divergents. Donc, intellectuellement, il y a du débat en France. Je trouve aussi qu'il est dur parce que finalement, il n'y a pas eu un énorme procès sur son programme pendant la campagne, alors que son programme, il nous emmenait quand même vers 3 000 milliards de dette vers
voilà,
un déficit.
Voilà, vous allez alimenter
de l'ordre de 9% du PIB. globalement, je ne sais pas vers quoi il nous emmenait, sinon une potentielle faillite de la France. Donc là voilà, ne soyons pas, n'occultons pas aussi les faits, les chiffres. On n'a pas de possibilité de taxer de plus de 100 milliards de plus aujourd'hui les Français, les ménages ou les entreprises. Et on n'a pas la possibilité de faire des dépenses publiques supplémentaires comme il le prévoyait. Et je crois que les Français en sont quand même conscients, au fond, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas choisi aussi. Donc maintenant, il faut être bon joueur.
Voilà, on vous retrouve dans quelques minutes, Agnès Verdier-Molinier.
Midi 45 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine Mercier. La guerre en Syrie se concentre sur les poches de résistance de l'État islamique. L'armée syrienne tente depuis plusieurs jours de briser le siège de Deir ez-Zor dans l'est du pays.
Et oui, la perte de Deir ez-Zor et de sa région sonnerait effectivement le glas de la présence de l'État islamique en Syrie. Appuyée par les frappes de l'aviation russe, les unités qui sont les plus avancées des forces gouvernementales sont arrivées maintenant à 2 km de cette ville, mais elles rencontrent une forte résistance. Le I aurait reçu notamment des renforts dans le secteur pour la plupart des combattants étrangers. Éric Bégala.
Oui Antoine, Deir ez-Zor, c'est la dernière capitale provinciale syrienne encore partiellement tenue par l'État islamique. Mais en fait, les djihadistes n'ont jamais réussi à réduire complètement la ville. La moitié des quartiers urbains est toujours restée sous le contrôle des forces du régime, de même que l'aéroport au sud-est et qu'une base militaire, connue comme celle de la brigade 137, à l'ouest. Deux poches encerclées par les djihadistes depuis 2 ans et demi et ravitaillées par air. C'est ce siège que l'armée de Bachar al-Assad tente de briser en arrivant par l'ouest, au travers des longues étendues désertiques en provenance de Palmyre. Les combattants pro-régime de la brigade Al-Nimr, c'est-à-dire le Tigre, sont lourdement appuyés par les avions russes, vous l'avez dit, et même par l'artillerie à longue portée. Le ministère de la Défense à Moscou vient d'annoncer que ses navires lance-missiles en Méditerranée étaient eux aussi engagés dans la bataille, tirant quelques missiles de croisière ces dernières heures. Pour le moment toutefois, le siège des deux poches n'est pas encore brisé. Les djihadistes ont même lancé une contre-attaque hier soir sur les arrières de la brigade Al-Nimr, sans parvenir à casser la dynamique de l'offensive. Les forces d'Al-Nimr sont à moins de 2000 mètres de la brigade 137, mais la jonction n'est pas encore faite.
Éric Bégala, pendant que vous parliez, télévision officielle syrienne qui annonce que l'armée brise le siège de l'EI à Deir ez-Zor. Bon, il faut encore effectivement qu'il y ait une confirmation sur le terrain. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'enjeu de cette bataille est tout à fait important parce que avec la victoire des forces syriennes, l'EI ne va donc plus contrôler aucune région de Syrie. Et d'autre part, pour le régime de Bachar al-Assad, finalement, c'est une réinstallation de facto dans une position clé pour l'après-guerre, peut-être.
Oui, alors pour ce qui est des capitales provinciales, les djihadistes contrôlent encore une petite moitié de Raqqa, autre capitale provinciale, mais ils sont complètement encerclés, quasiment acculés et finiront de toute façon par tomber. Deir ez-Zor, en revanche, même s'ils ne l'ont jamais contrôlé complètement, est au cœur du dernier territoire du califat d'Abou Bakr al-Baghdadi, la moyenne vallée de l'Euphrate, à cheval sur la Syrie et l'Irak. C'est là où l'État islamique a probablement concentré ce qui lui reste de force, son administration, ses cadres. C'est également là qu'il tient encore quelques réserves d'hydrocarbures, les toutes dernières. Reprendre Deir ez-Zor pour le régime de Bachar al-Assad, ce serait en effet une énorme victoire. C'est la ville la plus importante de cette moyenne vallée de l'Euphrate, l'ancienne capitale régionale, et surtout pour l'État islamique, ce sera vraiment le début de la fin, raison pour laquelle les djihadistes y défendront probablement bec et ongle leur position. Ils y ont décrété la mobilisation générale de tous les hommes en âge de porter les armes cet été, et selon certains activistes encore présents dans la partie de la ville tenue par les djihadistes, ils ont très lourdement renforcé leur défense. La force Al-Nimr aura probablement fort à faire pour prendre la ville. Jusque-là, elle n'a enfoncé les positions des djihadistes que dans du désert. À Deir ez-Zor, on rentre dans le dur de la bataille.
Éric Bégala, merci.
La crise coréenne, à la suite de l'essai nucléaire annoncé dimanche par la Corée du Nord, un projet de nouvelle résolution est à l'étude aux Nations Unies à l'initiative des États-Unis. Ce matin toutefois, Vladimir Poutine estime que des sanctions accrues contre la Corée du Nord n'auraient pas d'effet sur l'attitude du régime de Pyongyang.
Et le président russe qui s'exprimait à l'issue du sommet des BRICS à Xiamen, dans le sud-est de la Chine, affirme donc que la Russie condamne évidemment ces exercices de la Corée du Nord, considère que c'est une provocation, mais intensifier, dit-il, l'hystérie militaire ne mènera à rien de bon, ça pourrait mener à une catastrophe globale. Claude Bruyot, bonjour.
Bonjour.
Déclaration du chef du président russe, donc qui confirme évidemment l'opposition au projet américain de renforcer les sanctions. Quel est finalement le jeu de Vladimir Poutine dans cette crise coréenne ?
Alors, dans un premier temps, Vladimir Poutine fait évidemment écho aux positions chinoises, d'abord parce que la Russie a aussi une frontière terrestre et maritime à surveiller avec la Corée du Nord, et qu'il ne souhaite aucunement avoir un front à l'extrême sud-est du pays. Mais avant de prôner donc ce dialogue et cette négociation avec la Corée du Nord, Vladimir Poutine a commencé par qualifier donc de provocation l'essai réussi de l'explosion d'une bombe à cheval avant-hier par Pyongyang. La Russie condamne donc ces exercices. L'analyse du président russe consiste d'abord à essayer de mettre les principaux protagonistes autour de la table et surtout à démonter donc le système des sanctions inutiles et inefficaces, a jugé Vladimir Poutine, qui rappelle que les précédentes mesures de rétorsion onusienne n'ont jamais en fait stoppé l'avancée du programme nucléaire nord-coréen. Donc après cette prise de position du maître du Kremlin, on voit maintenant difficilement la Russie, hein, membre du Conseil de sécurité, voter pour la prochaine vague de sanctions contre la Corée du Nord. Enfin, Vladimir Poutine, vous l'avez dit, a fustigé donc cette hystérie militaire des Américains, la concentration de troupes, d'aéronefs, de bâtiments de guerre à l'extrême sud-est donc de la Russie, pèse aussi dans les relations très détériorées déjà avec Washington. Le président russe accentue le trait sur le discours « va-t'en guerre » de Donald Trump, car il a parfaitement compris que celui qu'il appelle son partenaire était dans une impasse dont il pourrait très bien ressortir affaibli sur la scène internationale, alors que la Russie, elle, depuis le début de la crise, joue l'ouverture, le dialogue et assoit encore davantage son rôle de grande puissance incontournable.
Claude Briot, merci beaucoup. En direct de Moscou, les salariés ont droit au respect de leur vie privée sur leur lieu de travail, y compris dans leurs communications électroniques, qui ne peuvent être contrôlées qu'à certaines conditions. Voilà ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme ce matin, qui se prononçait sur le cas d'un salarié roumain qui avait été licencié pour avoir utilisé à des fins personnelles une messagerie instantanée par Internet. La Cour estime donc que les juridictions nationales qui avaient validé cette sanction, ce licenciement, n'avaient pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. 12h50, on revient vers notre invitée maintenant, Agnès Verdier-Molinier, qui est donc directrice de l'IFRAP et qui a écrit au mois de janvier un livre sur un programme présidentiel, ce que doit faire le prochain président aux éditions Albin Michel. Jean-Marc Chardon, une question.
Eh bien oui, Agnès Verdier-Molinier, avec cet ouvrage « Ce que doit faire le prochain président », c'est la méthode, le calendrier, les mesures que vous essayez d'inspirer. C'est pas vraiment un programme, vous parlez d'une feuille de route, si j'ai bien compris. Alors le président, eh bien, il est là maintenant, et une méthode, il en a une, en tout cas qu'il vient de pratiquer concernant la réforme du Code du travail, qui consiste à pratiquer une certaine concertation avec les syndicats, mais en même temps à avoir une certaine autonomie qui débouche sur les ordonnances. Est-ce que pour vous, c'est le début de ce que vous souhaitez faire ou pas ?
Alors oui, la méthode des ordonnances est une bonne méthode. Elle est tout à fait constitutionnelle. Elle a été utilisée sous la Ve République de nombreuses fois. Et elle permet de réformer plus vite. Après, la question, c'est ce qu'il y a dans ces ordonnances. Et est-ce que ça va assez loin par rapport à ce qui est nécessaire en termes d'assouplissement de notre Code du travail ? Non pas pour être dans une logique du moins-disant social ou tout ce qu'on a pu entendre ces derniers temps, mais au contraire pour se mettre dans une logique de déverrouiller la peur de l'embauche, notamment dans les petites entreprises, celles dans lesquelles peuvent se créer les emplois de demain. Donc, quand on regarde une à une les ordonnances, il y a de bonnes choses, mais on reste un peu sur sa fin, sur une bonne partie des choses. Par exemple, la démocratie directe qu'on pourrait créer dans l'entreprise, qui était proposée par le président Macron dans sa campagne sur l'idée d'un référendum directement à l'initiative de l'employeur, entre l'employeur et ses salariés, et qui aurait une valeur juridique, eh bien ça ne sera pas possible au-dessus de 20 salariés. Donc, en réalité, c'est réservé aux toutes petites entreprises, mais il n'y a pas cette possibilité de consultation dans tous les niveaux d'entreprise. Ça, par exemple, je le regrette. J'aurai un papier qui va paraître demain sur le sujet. Et il y a encore donc beaucoup d'angles morts comme ça. La question de la cause réelle et sérieuse du licenciement en cas de licenciement économique. On est sur une barémisation des indemnités en cas de licenciement abusif, mais on n'est pas sur une redéfinition, comme ça aurait dû être le cas si on avait voulu aller au bout de la réforme. Par exemple, une entreprise qui se réorganise complètement, qui change d'objet social, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un motif réel et sérieux de
licenciement ? Est-ce qu'en déverrouillant tout, comme vous dites, on est sûr que ça va forcément améliorer la situation à partir du moment où, comme le disait d'ailleurs Daniel Cohen sur cette antenne pas plus tard que cette semaine, à partir du moment où ce qui est premier, sans doute, c'est quand même l'activité, c'est quand même ce qui repart après quoi les embauches se font, ce n'est pas le déverrouillage qui crée l'activité.
C'est la conjonction de beaucoup de choses. Alors évidemment, le Code du travail, uniquement le Code du travail tout seul, ça ne permet pas de créer de l'emploi seul. Mais il y a une conjonction d'éléments sur lesquels on peut intervenir. Cette question du Code du travail. Par exemple, les Italiens, on a dit beaucoup qu'ils avaient choisi un contrat de travail unique. En fait, ils ont choisi aussi que le CDD puisse être renouvelé jusqu'à 5 fois sur 3 ans. Il faut savoir que dans la fonction publique française, on a des CDD jusqu'à 6 ans au total. Et personne ne hurle. Pour embaucher en CDD en France, il faut être uniquement sur des postes de remplacement et des postes qui ne sont pas permanents dans le secteur privé. C'est pas tellement le cas dans le secteur public où c'est beaucoup plus flexible. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on peut faire en flexibilisant sans pour autant aller dans des choses extraordinaires. Mais néanmoins, c'est vrai, vous avez raison, ça ne suffira pas seul. Il faut accompagner tout ça avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la fiscalité du capital où on flèche l'épargne des Français au maximum dans le capital des TPE et des PME françaises. Alors là, ça demande aussi d'avoir une vision un peu territoriale, d'avoir une vision aussi sur l'impôt sur le revenu, d'inciter tous les Français qui le peuvent à mettre en capital d'entreprises à côté de chez des œufs au démarrage. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore tenté avec une importance à l'aune de ce que font notamment les pays anglo-saxons. Et puis, il y a la question des taxes sur la production. On parle beaucoup des charges sociales en ce moment, mais on parle très peu des 50 à 60 à 70 milliards qu'on paye en plus en France, dans nos entreprises, dès qu'on ouvre l'entreprise, c'est-à-dire la CVAE, l'IFER, donc c'est les anciennes, l'ancienne taxe professionnelle en fait, hein. Toutes ces petites taxes qui financent les collectivités locales, qui ne sont pas prélevées sur le résultat, mais directement sur l'activité. Et ça, ça freine énormément de création d'entreprises. Donc, et au bout du compte, il y a aussi le carnet de commandes, mais le carnet de commandes, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on produit en France. Là, vous avez vu que les mesures de pouvoir d'achat dernièrement, elles ont donné quoi ? Un creusement de la balance commerciale. Donc, il faut bien réfléchir à l'ordonnancement des réformes et dans quel sens on les fait.
Voilà, juste une dernière question.
Oui, bien rapidement. Parce que Agnès Verdier-Molinier, vous dites qu'il faut faire vite, une dizaine de mesures d'urgence, puis trois référendums pendant un quinquennat pour faire tout ça. Est-ce que c'est bien réaliste ?
Alors, les trois référendums, pourquoi ? Parce que, notamment, j'en propose un sur le mode de financement de nos syndicats. On parle beaucoup du dialogue social en France, mais en réalité, il y a très peu d'adhérents qui payent des cotisations aux syndicats de salariés. C'est de l'ordre de 8%. Donc, on est dans un dialogue social qui, finalement, est un peu bancal. Parce que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de salariés qui adhèrent ? C'est aussi qu'il n'y a pas vraiment d'incitation à le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de financements qui arrivent directement par ce qu'on appelle le paritarisme. C'est la co-gestion entre les syndicats de salariés du patronat, de l'assurance maladie, des caisses de retraite, des caisses de retraite complémentaires, etc. Donc, moi, j'ai proposé, et c'est pour ça que je proposais un référendum dans le livre, un chèque syndical qui remplace les financements publics par des adhésions. Et là, on aurait un dialogue social beaucoup plus équilibré. Et on n'aurait pas ce système de blocage comme on a en France. On aurait un système peut-être plus à la Scandinave où on accompagne l'évolution et les réformes.
Pourquoi pas vous engager davantage en politique alors ? Agnès Verdier-Molinier, parce que là, vous nous faites le programme du président, donc pourquoi ne pas aller directement le conseiller ?
C'est une question que j'ai souvent eue. Je pense qu'on est aussi à l'extérieur très utile, parce qu'on est tout à fait indépendant, une fondation reconnue d'utilité publique, financée uniquement par des dons. 90% des dons, ce sont des dons de personnes physiques avec des moyennes de dons de 80 euros. Donc très libre par rapport à la fois au lobby public et au lobby privé. Et je pense que en restant à l'extérieur, on peut aussi avoir une vraie vision sur les réformes et en étant juste, c'est-à-dire quand il y a des choses bien, le dire. Quand il y a des choses qui ne vont pas assez loin, le dire aussi.
Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier d'avoir accepté notre invitation.
Merci
aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir invité.
Du soleil sur le sud-est, nuageux, humide ailleurs, des températures de 20 à 32 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard et Nathalie Lopez. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.